Vous êtes sur RTL.
RTL. Merci d'écouter RTL. Il est 12h30.
RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. 30 minutes d'information à la mi-journée avec à la une un gros bug pour le pass sanitaire. En ce début de week-end du 15 août, une panne géante continue d'empêcher de nombreuses pharmacies de générer le QR code après un test antigénique. On en parlera avec notre invitée Marie-Christine Lequelec, coprésidente du syndicat des pharmaciens en Ille-et-Vilaine. Pas de panique si vous devez prendre le train. La SNCF se montre tolérante. Un couac à la veille d'une nouvelle journée de manifestation contre le pass sanitaire. 250 000 personnes pourraient descendre dans la rue aujourd'hui à travers toute la France. Encore un week-end bien compliqué sur la route des vacances, en particulier dans le sens des retours. La journée est classée rouge. On fera le point sur vos conditions de circulation. Et puis dans ce journal également, les pèlerins de retour à Lourdes pour l'Assomption. Et puis Messi officiellement présenté aux supporters du PSG ce soir avant le match contre Strasbourg. Sans oublier la mobilisation des sauveteurs en mer cet été, des bénévoles à la rescousse des plaisanciers en détresse. Le président de la SNSM de Bandol sera notre invité. Enfin, votre chronique sur les plus belles routes de France, cette fois-ci sur les traces de Peugeot en Franche-Comté. Le ciel, Valérie Quintin, toujours cette alerte canicule dans le sud-est.
5 départements sont toujours placés en vigilance orange, canicule, la Drôme, l'Ardèche, les Alpes de Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes, mais c'est toute la moitié sud du pays qui va avoir très très chaud cet après-midi. La nuit déjà a été rude, les températures étaient souvent au-delà de 20 degrés, très largement d'ailleurs au lever du jour. À côté de cela, on va avoir un soleil de plomb sur tout le territoire. Un tout petit peu de grisaille quand même sur le Pays Basque qui devrait forcer un peu tout au long de l'après-midi. Et puis, il faut s'attendre à 2-3 averses orageuses en fin de journée sur le Jura, le Massif central et les Alpes. Côté Mercure, donc 22 degrés à Cherbourg, une des températures les plus basses. 26 à Lille, 30 à Paris, 32 degrés à Chamonix, 34 degrés attendus à Mâcon et Mont-de-Marsan, 36 à Montauban et 38 à Nîmes et à Carcassonne.
Merci Valérie.
Alexandre de Saint-Aignan,
RTL Midi.
Alors vous pouvez vous faire tester, mais pour le QR code, c'est un petit peu plus compliqué. Depuis hier après-midi, de nombreuses pharmacies sont dans l'incapacité de générer les passes sanitaires nécessaires désormais pour prendre le train, pour prendre l'avion, aller au cinéma ou au restaurant. La faute à une panne informatique qui donne des sueurs froides aux pharmaciens et aux patients qui sont nombreux à vouloir se faire tester. Pour en parler avec nous, Marie-Christine Lequelec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésidente du syndicat des pharmaciens en Ille-et-Vilaine et vous-même, vous êtes pharmacienne à La Bouëxière. Est-ce que de votre côté, la panne est résolue ou est-ce que ça continue les problèmes?
Alors, la panne a l'air résolue ce matin, mais avec aussi des petits dysfonctionnements en cours de matinée. Donc, c'est assez pénible d'être ralenti par ce site SIDEP qui est sous-dimensionné par rapport à la demande qui est énorme actuellement.
Okay. Ça ressemble à quoi ces dysfonctionnements?
Impossible de se connecter au site qui est l'unique site d'obtention des fameux QR codes, des fameux passes sanitaires.
Ce site, c'est le SIDEP, c'est ça?
C'est ça.
Oui. Vous, je crois que vous avez eu accès au SIDEP très tôt. Vous avez testé ce système informatique. Est-ce que vous avez déjà connu des pannes de ce genre-là avant?
C'est assez récurrent. Il y a pu y avoir des petits soucis, mais depuis l'instauration du pass sanitaire, là, c'est tous les jours, il y a des moments où il y a des ralentissements, et en particulier les vendredis. Depuis l'annonce gouvernementale du mois de juillet, tous les vendredis, il y a quand même comme une surchauffe de ce système. Et là, vendredi, c'était l'apothéose. À partir de 17h, c'était impossible.
Alors, il y a une surchauffe le vendredi parce que les gens veulent plus se faire tester avant le week-end.
Oui,
c'est ça.
Le week-end, les départs en vacances actuellement, il y a quand même aussi, il ne faut pas l'oublier, des patients qui ont besoin du pass sanitaire pour aller travailler maintenant. Donc là, on est bien plus embêté encore. Mais bon, quand on a un avion à prendre ou un train, ou on a prévu d'aller au restaurant, mais encore là, on peut se dire, le pass sanitaire, il est là pour obliger les patients à penser à se faire vacciner. Malgré tout, il n'est pas normal que l'on exige un pass sanitaire et que le système d'enregistrement ne soit pas à la mesure des demandes des pharmacies qui réalisent les tests.
Est-ce qu'il y a quand même une possibilité pour vous de donner aux patients, alors peut-être pas forcément un QR code, mais un justificatif? Oui, le justificatif, alors, ça c'est possible.
Ben, un justificatif, on le ferait manuscrit, mais il n'a aucune valeur. C'est le problème.
Et c'est possible de rentrer manuellement dans le système ou le système est complètement bloqué?
Non, c'était complètement bloqué. On passe, nous avons une carte CPS, une carte professionnelle de santé qui nous permet l'accès. C'est extrêmement sécurisé et c'est cet accès qui était impossible.
Est-ce que vous avez un minimum de visibilité? Est-ce que vous avez des renseignements sur quand est-ce que ça pourrait se résoudre?
Alors, ce matin, ça a été partiellement résolu. À l'heure actuelle, peut-être il n'y a plus aucun problème. Mais malheureusement, non, on a très peu d'informations quand ça se produit. Le site est en maintenance. Veuillez nous en excuser. Hier soir, il y avait un message de ce type. Toutes nos équipes se mettent en action pour résoudre le problème, mais c'est tout.
Merci beaucoup Marie-Christine Lequelec de nous avoir accordé un petit peu de temps dans votre matinée qui est, j'imagine, bien chargée. Je rappelle que vous êtes coprésidente du syndicat des pharmaciens en Ille-et-Vilaine, votre pharmacie qui se situe à la Bouëxière. Si vous êtes merci. Si vous êtes fait tester hier ou aujourd'hui et que vous n'avez pas pu avoir votre QR code, pas de panique. À la SNCF, les contrôleurs ont reçu une consigne. Ils doivent se montrer souples ce week-end. Du côté des aéroports, pas de problème à signaler pour l'instant. Les voyageurs peuvent de toute façon se faire tester sur place s'ils n'ont pas leur passe sanitaire. Sur le front de l'épidémie, la situation est toujours tendue dans les services de réanimation. 6 patients ont été transférés hier depuis la Corse et l'Occitanie vers des hôpitaux de la Bretagne et du Grand Est. Des nouvelles évacuations sont prévues ce week-end, cette fois depuis la Martinique, en direction de Paris. Air Caraïbes envoie un avion sur place pour le compte du ministère de la Santé. Il doit ramener 6 patients en métropole pour tenter de soulager l'hôpital de Fort-de-France. Les transferts vont continuer et même s'accélérer dans les prochains jours au vu de la situation sanitaire dans les Antilles. Ludovic est pompier en Martinique et il lance un appel pour encourager les habitants sur place à se faire vacciner.
Il y a un mois, quasiment personne ne connaissait de malade de la Covid et aujourd'hui, tout le monde connaît au moins une personne décédée et au moins une ou deux étant dans une situation grave. Alors les gens sont un petit peu forcés par la crainte à venir se faire vacciner et effectivement, à l'arrivée, ils sont porteurs de beaucoup de questions. Essentiellement sur la sécurité du vaccin, sur les conséquences à long terme, puisqu'aujourd'hui on sait que les conséquences à court terme n'existent pas. C'est un vaccin qui a très très peu d'effets indésirables immédiats. Et donc les gens s'interrogent sur la reproduction, sur la possibilité d'avoir des cancers plus tard et autres. Donc je pense qu'effectivement la crainte vécue dans le réel du quotidien fait que les gens se rendent compte que bien oui, la vaccination va protéger et que c'est sans doute la seule façon de se protéger aujourd'hui en tout cas.
Des propos recueillis par Sinamir, l'envoyé spécial de RTL aux Antilles. Et face à cette situation sanitaire catastrophique, l'opposition au pass sanitaire continue de prendre de l'ampleur. Près de 200 actions et rassemblements sont prévus aujourd'hui à travers toute la France. Les autorités s'attendent à voir défiler environ 250 000 manifestants. Nerissa Imani, vous êtes dans un des cortèges à Paris. Les opposants commencent à se rassembler.
Oui, ils sont environ 300 manifestants pour l'instant près de la Porte Dorée pour ce cinquième samedi de mobilisation. Des familles, des personnes âgées, certains portent un gilet jaune. Sur leur pancarte, on peut lire « Non au pass de la honte », mais aussi « Balance ton QR code ». Jessica, à 25 ans, c'est la première fois qu'elle manifeste.
Je suis là aujourd'hui parce que je suis infirmière. Aujourd'hui, on m'empêche de rentrer dans le service parce que je ne suis pas vaccinée. Bien que la loi ne soit pas encore en vigueur, je suis harcelée tous les jours en allant au travail. Je me sens mal parce que moi, l'année dernière, lors de la première vague, j'étais encore étudiante. On nous a envoyés dans les services. On n'était pas payés. On était au contact même du Covid. Et aujourd'hui, on nous interdit d'aller travailler.
3 cortèges sont prévus aujourd'hui à Paris. 17 000 personnes ont manifesté la semaine dernière, mais aujourd'hui, les autorités prévoient une mobilisation plus importante, notamment parce que le pass sanitaire est en place depuis lundi. Le départ ici est prévu dans quelques minutes, sous un soleil de plomb, 29 degrés. Certains s'enduisent déjà de crème solaire.
Et bon, on continue de suivre ça avec vous. Merci beaucoup Nerissa Imani à Paris pour RTL. Allez, dans un instant, on ira sur la route des vacances. Il y a déjà près d'un millier de kilomètres de bouchons. Vous êtes très nombreux.
Alexandre de Saint-Aignan,
RTL Midi.
RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
Merci de nous rejoindre sur RTL, il est 12h40. On va faire un point sur vos conditions de circulation dans quelques instants, mais juste avant, on va prendre la température sur l'autoroute du Soleil avec Raphaël Vantard. Vous êtes sur l'aire de Solèze avec des automobilistes très nombreux pour faire une pause en plein cagnard.
Le mercure vient de passer la barre des 30 degrés, c'est donc la course au rafraîchissement sur cette aire de repos. Stéphane part pour des vacances en Ardèche avec un coffre presque entièrement dédié à la canicule.
Voilà, glacière avec toutes les provisions pour le midi. Eh ben, on a du jus d'orange, le saucisson, on est français quoi. C'est parti pour les vacances. Ceux qui nous disaient vous partez trop tard et la dernière quinzaine d'août c'est la pire, bon bah... pour le coup, c'est agréable de les faire mentir.
Même chaleur, mais peut-être plus difficile à vivre en face sur l'air de ces raisins dans le sens des retours. Christophe va devoir supporter cette canicule pendant encore de longues heures de route et de bouchons.
On a pris de l'eau, les glacières, on s'arrête toutes les deux heures. Bon, on a encore 700 km à faire, mais en roulant prudemment, on y arrivera.
Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui partent ?
Bon courage ! Je leur souhaite vraiment un bon courage et qu'ils passent de bonnes vacances.
Un beau joueur, Christophe. Il sait comme beaucoup pourtant qu'une autre route l'attend aussi lundi, celle du retour au travail.
Raphaël Vantard sur l'aire de Solez pour RTL. Beaucoup de monde sur l'autoroute A7. La journée est classée rouge par bison futé, notamment dans le sens des retours. Si vous êtes sur la route ce midi, patience indispensable. C'est l'heure de pointe, hein, Sarah Loubacouche.
Oui, complètement, Alexandre. On a atteint le pic du trafic un petit peu après-midi avec 960 km de bouchons cumulés très précisément. Alors là où ça coince le plus, sans surprise, c'est dans la vallée du Rhône, hein, que vous remontiez ou bien que vous descendiez l'autoroute A7. Si vous allez vers Marseille, vous mettez du temps à passer Vienne et son péage. Puis ensuite, il faut s'armer de courage pour affronter un bouchon de plus de 100 km qui s'étend de Saint-Barthélemy-de-Valls, et oui, à Saint-Paul-Trois-Châteaux. C'est un petit peu après la sortie 18. Une petite accalmie, puis ça se complique ensuite vers Aix avec un accident au niveau de Salon de Provence. On reste donc très vigilant dans le secteur. Vos temps de parcours, eux, sont évidemment fortement impactés. Comptez 3h40 pour aller du sud de Lyon à Orange. C'est 2h de plus que lorsque le trafic est fluide, ça, Alexandre.
Radio Guidage signé Sarah Loubacouche pour RTL.
Alexandre de Saint-Aignan,
RTL Midi.
Et à la veille de l'Assomption, la ville de Lourdes reprend vie. Le pèlerinage avait été annulé l'an dernier à cause de la pandémie, mais cette année, les catholiques sont de retour dans la cité mariale. 3000 participants sont attendus, dont 300 malades. Alors c'est près de 10 fois moins qu'en 2019, surtout avec l'absence des pèlerins étrangers. De nombreux hôtels sont toujours fermés. Philippe Fialo gère 3 magasins à Lourdes.
On espérait un pèlerinage du 15 août, beaucoup plus important que ce qu'il est, mais c'est déjà tellement bien qu'ils puissent te dire. C'est une très bonne nouvelle et c'est un signe d'espérance. Depuis lundi dernier, on voit vraiment une progression de la fréquentation, on voit plus de pèlerins, mais la fréquentation n'est pas la même qu'habituellement. Le chiffre d'affaires se situe à moins 60% pour l'instant, c'est que la fréquentation est moindre. Ça fait beaucoup de bien de revoir des pèlerins à Lourdes, de voir cette dévotion. Je ne parle pas seulement d'un plan commercial, mais de revoir nos pèlerins qu'on a perdus depuis un moment. Évidemment, aussi sur le plan commercial, c'est toujours bien de les voir dans nos magasins aussi.
Des propos recueillis par Benjamin Pelsi à Lourdes, donc pour RTL. Un week-end du 15 août marqué par des fortes chaleurs, notamment dans le sud-est où 5 départements sont en vigilance orange. Pour se rafraîchir, rien ne vaut les vieilles pierres. Direction le château de Pierrefonds dans l'Oise, près de la forêt de Compiègne. Une bâtisse du 14e siècle laissée à l'abandon avant d'être remise à neuf en 1857 par Viollet-le-Duc. C'est l'architecte qui avait également rénové Notre-Dame de Paris, Benjamin Boucriche.
Il fait des murailles de 20 mètres de hauteur, on s'imagine en plein Moyen-Âge. Mais quand on entre dans la cour de ce château, tout de suite, on est au temps moderne. Et ça, Olivier, ça vous plaît ?
Moi, j'adore. D'un côté, c'est du brut, du froid, qui on sent que c'est fait pour protéger. Et à l'intérieur, on rentre vraiment dans une autre époque où c'est plus la magnificence et montrer qu'on a de la puissance et de l'argent pour faire des beaux monuments avec des belles moulures. C'est totalement différent.
À l'intérieur, premier réflexe, il fait frais et c'est très agréable. Quelques minutes plus tard, on arrive dans une salle où l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, avait ses habitudes. Il y a même des robes d'époque, mais elles ne sont pas vraiment au goût de Valérie.
C'est un peu kitsch, mais bon, après, il faut se remettre dans le contexte. Hein. C'était l'époque. Voilà, peut-être que pour l'époque, c'était très, très tendance. C'est comme un jupon, mais il y a un cerceau, donc c'est juste pas pratique, quoi. Imaginez, vous voulez courir après quelqu'un, c'est pas possible. Hein. Vous trébuchez tout de suite.
Il ne reste plus qu'à passer un petit escalier en colimaçon. Et puis, au bout d'une vingtaine de marches, on est de retour dans la cour de ce château. On est aussi de retour dans la chaleur, mais on aura passé une magnifique journée.
Un reportage signé Benjamin Boucriche pour RTL. Aux États-Unis, désormais Joe Biden sous le feu des critiques face à l'offensive des talibans en Afghanistan. En quelques jours, ils se sont emparés de la plupart des grandes villes du pays. Ils se rapprochent toujours plus de la capitale, Kaboul, alors que l'armée américaine doit avoir complètement retiré ses troupes avant la fin du mois. Le président des États-Unis se défend d'une débâcle, mais Washington a dépensé plusieurs centaines de milliards de dollars au total pour former une armée afghane qui ne fait visiblement pas le poids, hein, Émilie Beaujard.
Oui, et pourtant, sur le papier, les soldats afghans avaient toutes les cartes en main pour repousser les talibans. Ils sont 4 fois plus nombreux que les insurgés. Ils ont été formés, équipés, financés par les Américains. 300 000 hommes capables d'assurer, dit-on, la sécurité de l'Afghanistan. Mais selon les experts, ce chiffre de 300 000 serait en fait surévalué. Les dollars américains ont été détournés au profit d'une corruption endémique. Et puis, il y a la réalité du terrain afghan. Les bataillons les plus éloignés de Kaboul n'ont pas pu être réapprovisionnés dans les temps. Faute de munitions, les soldats ont dû abandonner le combat. Et puis, sans le soutien aérien de l'armée américaine, les soldats afghans ne se sont pas sentis capables de combattre. C'est pourquoi on a pu les voir s'échapper de certaines villes sans ouvrir le feu, laissant les habitants seuls face aux talibans. Des talibans qui en ont profité pour mettre la main sur l'arsenal militaire laissé derrière les soldats et leur permettant ainsi de se renforcer et d'enchaîner les victoires. Ce midi, le président afghan appelle à la remobilisation des forces armées. Mais cela semble arriver bien trop tard.
Les précisions d'Émilie Beaujard pour RTL. En football, après la déroute de Monaco face à Lorient hier soir 1-0, le champion de France en titre, Lille, affrontera Nice à 17h pour la suite de la deuxième journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain, lui, jouera ce soir face à Strasbourg. Une rencontre très attendue par les supporters parisiens car le club va officiellement présenter ses nouvelles recrues et notamment le sextuple ballon d'or, Lionel Messi, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino.
On ressent cet enthousiasme, cette énergie positive qu'il y a autour de Lionel Messi, un accueil extraordinaire. Je vois qu'il est heureux, avec une volonté incroyable, on sent quelqu'un de mature. Il a fait son deuxième entraînement vendredi, après un mois sans jouer, la priorité c'est qu'il se sente de mieux en mieux. On sera à l'écoute, savoir ce qu'il pense, ce qu'il ressent, son évolution, ses besoins. On verra le moment où il sera prêt à jouer.
Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien avec Baptiste Durieux pour RTL. Lionel Messi qui fait s'envoler le prix des places sur le marché noir jusqu'à plus de 4000 euros le billet hier après-midi alors que l'Argentin ne jouera pas avant plusieurs semaines. PSG Strasbourg, une rencontre à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h. On va marquer une courte pause sur RTL avant de retrouver notre invité, c'est le représentant national des sauveteurs en mer.
Alexandre de Saint-Aignan,
RTL Midi. Alexandre de Saint-Aignan,
RTL Midi.
À 12h50 sur RTL, l'invité de RTL Midi, c'est Jean-Luc Sercio. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Jean-Luc Sercio, vous êtes président de la SNSM de Bandol dans le Var, administrateur national de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Ma première question, elle est simple. Comment se passe votre été ?
Il est compliqué, compliqué, énormément d'interventions, oui. On est en augmentation, Alors, on a regardé nos chiffres, c'est à peu près 14% d'augmentation par rapport à l'an dernier, qui était déjà une très grosse année en augmentation également à la suite du confinement. Et je crois que cette année, c'est un petit peu la même chose. Beaucoup de gens, de touristes ne sont pas partis à l'étranger avec notre crise sanitaire et se sont reportés directement sur notre Côte d'Azur, sur notre Provence et sur la Méditerranée pour nous. Et effectivement, il y a beaucoup de monde et beaucoup de gens sur l'eau.
C'est dû à l'augmentation du nombre de touristes ?
Oui, je pense effectivement. On l'avait vécu l'an dernier. L'an dernier, c'était une des causes principales. À la fin du confinement, les mesures sanitaires ont fait que les gens restent en France, finalement.
C'est pas des touristes qui sont plus imprudents, alors ?
Plus imprudents, c'est surtout qu'ils sont méconnaissants.
Ah oui ?
Le problème est là, oui, ce sont des gens qui ne sont pas habitués, qui n'ont pas l'expérience de la mer. Et beaucoup louent des bateaux, vont faire du loisir nautique sur différents engins. Et puis se retrouvent en perdition parce qu'ils n'ont pas pris la météo au bon moment. Et ils ne sont pas assez à l'aise avec l'eau. C'est ce manque d'expérience, ce manque de connaissances qui fait qu'il y a pas mal d'accidents, effectivement.
Alors je pense que quand on loue un bateau, quand on le loue auprès d'un professionnel, ça permet d'avoir un minimum de garantie, puis peut-être aussi des conseils. Il y a un phénomène aussi qu'on voit apparaître de plus en plus, c'est la location entre particuliers. Est-ce que c'est plus dangereux ?
Oui, alors on se rend compte dangereux, c'est pas le fait que ce soit plus dangereux, c'est que certainement les bateaux ne sont moins bien équipés. Vu l'état des bateaux, certains bateaux sont loués et on les retrouve effectivement ensuite en panne, en mer, notamment avec des pannes de moteur. Ce sont des bateaux qui n'ont pas été assez vérifiés. La prise en main, bien souvent, par un particulier n'est pas la même que par le professionnel et on se retrouve en mer, eh bien nous, avec des gens qui font, on va dire gentiment, des bêtises, parce qu'ils ne connaissent pas les zones, hein, ils peuvent se perdre en mer, ils vont dans des zones interdites, et puis en même temps, ils ne regardent pas suffisamment les balisages, et on les retrouve échoués, on les retrouve dans les rochers, on les retrouve en avarie au large, avec des pertes de route complètement, oui.
Mais pourtant, ils ont le permis bateau, hein. Ils sont obligés d'avoir le permis bateau, donc ils doivent connaître un minimum les règles.
Pour un moteur, absolument. Pour un navire à moteur, il faut un permis bateau, mais vous savez, le permis bateau, pas mal de personnes l'ont passé il y a des années, avec sur un temps très très court, et lorsqu'on ne pratique pas, ben, on oublie vite.
Bon, c'est important de préciser que la SNSM, c'est une association qui intervient bénévolement, avec du matériel qui est financé par des dons. C'est une ressource qui est vitale pour vous.
Ben, c'est plus que vital. Aujourd'hui, c'est 20% proviennent de notre financement, proviennent de subventions, hein, de l'État, des collectivités, et 80%, eh bien, vient uniquement de la générosité du public, et c'est qui nous permet de pouvoir entretenir nos bateaux, mais pour également les changer, parce qu'on a des bateaux qui ont une quarantaine d'années au niveau national, et on a 110 bateaux à changer dans les 10 ans qui arrivent. Donc, si vous voulez, en même temps, on a besoin de cet argent pour l'équipement des sauveteurs. Il va falloir les équiper pour les mettre en sécurité. Et puis, il y a surtout, aujourd'hui, la formation. La formation a un coût non négligeable. Et il faut savoir que nous sommes aujourd'hui, au sein de la SNSM, 27% de personnes, de sauveteurs, issus des véritables professions maritimes. Donc, tous les autres bénévoles, avec toutes les disponibilités et tous leur engagement, il faut les former. Et ça, ça a un coût, effectivement.
Merci beaucoup, Jean-Luc Sercio. Je rappelle que vous êtes le président de la SNSM de Bandol, administrateur national de la SNSM. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler rapidement comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Il faut se rendre sur votre site internet, c'est ça?
Oui, alors vous allez sur le site snsm.org et vous verrez, faites un don, hein, c'est partout. Et vous le faites à la station ou au centre de formation que vous souhaitez par le déroulé.
Eh bien merci, c'est bien noté. Merci beaucoup. On marque une pause sur RTL et dans un instant, une balade en Peugeot 106 sur les routes de Franche-Comté.
Alexandre de Saint-Aignan,
RTL Midi.
RTL Matin Weekend. RTL Midi, Alexandre de Saint-Aignan.
Et tout l'été sur RTL, Christophe Bourreau nous emmène en vadrouille sur les routes de l'Hexagone. Et ce midi, Christophe, direction la Franche-Comté.
Christophe Bourreau sur RTL, nos plus belles routes de vacances.
Et c'est devant l'un des plus beaux musées automobiles de France que commence notre périple, musée de l'aventure Peugeot à Sochaux. Alors à côté des voitures, on y découvre aussi une myriade d'objets que fabriquait la marque avant-guerre. Cela va des crinolines aux moulins à café, en passant, et oui, par des vieux postes radio. Et c'est avec une voiture sortie tout droit de ce musée que nous prenons la route, une Peugeot 106 qui fête ses 30 ans, au volant Hervé Charpentier, conservateur du site.
Allez, c'est parti, je vais vous emmener aujourd'hui découvrir les routes de Franche-Comté. Ces routes, elles sont agréables à sillonner, même en été quand on est en vacances. Et n'oublions pas que Peugeot est une marque qui a eu plein de voitures iconiques pour partir en vacances. Alors, par exemple, rappelez-vous vos périples en 403 ou en 504.
Vive la 403, bravo Sochaux.
Et nous voici d'abord partis sur les traces des frères Peugeot, car c'est sur ces routes sinueuses qu'à l'aube du XXe siècle, eh bien ces pionniers testaient leur première voiture.
C'était incroyable. Eh bien, les gens sortent parfois de chez eux en pyjama pour voir passer la voiture d'Armand Peugeot. Et n'oublions pas qu'à l'époque, les routes ne sont pas macadamées. Donc, les voitures vont déplacer des nuages de poussière énormes. Et d'ailleurs, ce sera une des choses qu'on va leur reprocher. C'est qu'en passant, elles pétaradent, elles font un bruit du tonnerre de Dieu. Et en plus, elles déplacent d'énormes nuages de poussière.
Et pour faire le plein, à l'époque, c'était toute une aventure. Il n'y avait pas encore de station-service.
Avant le XXe siècle, hein, eh bien, on allait acheter son essence chez le pharmacien ou chez le droguiste, puisqu'on allait acheter la gasoline directement là-bas. Il n'y avait pas de réseau de pompe à essence. Ça n'existait pas encore.
Et tout cela nous emmène aux sources de la famille Peugeot.
C'est ici que toute l'histoire de Peugeot va commencer. Vous êtes sur le lieu-dit de Soucratet, à l'entrée de la commune d'Héry-Moncourt. Et c'est là que les deux frères aînés de la famille Peugeot vont transformer l'ancien ancien moulin à grains familial en une aciérie moderne.
On ne faisait pas de voiture encore à l'époque. Hein.
Ah non, on est en 1810. À cette époque-là, on fait des ressorts pour la grosse et la moyenne horlogerie, mais on va également produire de l'outillage à bois, puisque la paysannerie locale travaille énormément le bois durant les mois d'hiver.
Un bois qui est toujours travaillé pour fabriquer des objets estampillés Peugeot, comme ces fameux moulins à sel et poivre. Lancés dès 1840, ils sont encore produits dans la région, à Quingé, près de Besançon. Et Sébastien Zotte, le directeur, nous ouvre exceptionnellement les portes du site.
Ah, on est dans la tournerie, c'est l'atelier qui va façonner le bois pour faire les corps de nos magnifiques moulins. On en tourne 15 à 20 000 par jour, des pièces de bois, et on va produire à peu près 2 millions de moulins par an. Ce produit, d'ailleurs, il est inégalé, il représente le savoir-faire, les arts de la table français dans le monde.
Et sur les grandes tables du monde, on trouve également une spécialité régionale, le comté. À quelques kilomètres de là se trouve la fromagerie Saint-Antoine, qui a la particularité d'être installée dans un ancien fort. Et visite guidée avec le maître affineur.
Je devine le son, l'intérieur du fromage. On a uniquement dans cette première pièce 10 000 meules de fromage, sachant que c'est une toute petite partie de la réserve du trésor du Fort Saint-Antoine, puisqu'il reste 90 000 meules qui sont logées dans des souterrains, des casemates, des cours, des caves qui ont été transformées de ce casernement militaire.
Des forts à la citadelle Vauban de Besançon, les routes de la région ont longtemps été protégées, carrefour stratégique non loin de la Suisse, comme le château de Joux près de Pontarlier, perché à plus de 900 mètres de haut, qui a accueilli des prisonniers célèbres comme Mirabeau et Toussaint Louverture.
Alors là, je vous emmène dans la cellule de Toussaint Louverture, qui était donc général de l'armée française à Saint-Domingue, où il a été enfermé donc pendant 7 mois avant de mourir le 7 avril 1803 dans sa cellule.
Lorraine Mansuit est la directrice du lieu.
Voilà, donc là, c'est la cellule de Toussaint Louverture. On est dans le bâtiment des prisons de la première enceinte, dans une salle entièrement voûtée en pierre au sol. Donc la cellule était équipée d'un lit, d'une commode, de 2 chaises, d'une table et d'une chaise percée. Le château de Joux, c'est 2 hectares de bâtiments, 5 enceintes, 3 ponts-levis et bien sûr un certain nombre de portes. On ne rentrait pas et on ne sortait pas du château comme on voulait.
Retour à notre point de départ dans le berceau de l'automobile. D'ailleurs, non loin de là, une 50aine de kilomètres, un autre musée, celui des frères Schlumpf et son incroyable collection mérite également le détour. 2 musées qui attirent chaque année plus de 250 000 visiteurs.
Nos plus belles routes.